Réforme. Développement. Impact.
Bienvenue sur Provision de vie avec Fabien Végel.
Ce programme vous donne les clés pour votre épanouissement avec une approche originale fondée sur la Bible.
Provision de vie.
Luc 6, on prendra les versets 46 à 49. En parallèle, vous pouvez prendre aussi Matthieu 7. Donc Luc 6 et Matthieu 7. Luc 6 et Matthieu 7. C'est deux passages qui nous relatent le même épisode, les mêmes paroles de Jésus, mais avec un point de vue un peu différent dans les deux textes, et en tout cas, qui nous apportent instruction. Donc Luc 6, on prendra au verset 46 et jusqu'au 49. Et mon thème pour vous, mon sujet aujourd'hui, c'est une maison bien bâtie. Une maison bien bâtie. Luc 6, vous avez trouvé? Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Et on va lire en parallèle, si vous le voulez bien, Matthieu 7 et au verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison et elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et ici, je voudrais juste qu'on remonte un tout petit peu, puisque le début du verset 24, c'était « c'est pourquoi ». C'est-à-dire qu'il fait référence à ce qui s'est passé précédemment. Et donc, on va prendre au verset 21. « Ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et je voudrais attirer votre attention sur ces passages, et en particulier sur le thème « Une maison bien bâtie ». Et peut-être qu'on peut tirer plusieurs enseignements ici. Mais ce qui est important pour nous, c'est de réaliser quelle parole Jésus nous donne dans ces passages et quelle parole il nous donne à nous, personnellement, aujourd'hui, à travers ces passages. Et on a ici deux récits assez proches, hein, c'est à peu près la même histoire qui est rapportée par deux évangélistes différents, donc Matthieu et Luc. Et on voit ici qu'il y a deux personnes qui construisent une maison. Et tous les deux, il y a une tempête qui va s'abattre sur leur maison. Et le problème, c'est qu'il y en a un où la maison va être complètement détruite et va être ensevelie, et il est dit que la ruine sera grande, et puis l'autre, sa maison, va tenir le choc. Et on peut se rendre compte que, il y a deux maisons, il y a deux circonstances semblables, mais la différence, Jésus nous l'explique, elle se trouve dans le fondement. La différence de ces deux maisons se trouve dans le fondement, dans la façon de construire aussi. Et dans Luc 6 en particulier, donc c'est surtout là-dessus qu'on va insister aujourd'hui, on voit certains éléments que Jésus nous donne en nous montrant comment celui dont la maison a tenu le choc, on pourrait dire, était construite. Il est dit, je vous montrerai verset 47, à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Donc ça, c'est ce que Jésus attend de nous. Que nous venions à lui, nous entendions, écoutions ses paroles et les mettions en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé un fondement sur le roc. Et je voudrais ici attirer votre attention sur le fait qu'il insiste avec creuser. Il est dit, il a creusé creuser profondément. Et de la même façon que lorsqu'on construit une maison dans le naturel, hein, c'est un exemple que vous avez certainement entendu plusieurs fois, ou n'importe quel bâtiment, eh bien, avant de construire et de monter en hauteur, on va creuser pour poser des fondements solides à ce bâtiment. Et de ces fondements va dépendre la solidité de tout l'édifice, de tout l'ensemble. Et je me souviens, il y a un peu plus d'un an maintenant, dans une de mes activités précédentes, en fait, j'ai suivi des chantiers et la construction de structures commerciales. Et on avait un projet dans un endroit qui était un terrain à la base plutôt marécageux. Et en fait, pour pouvoir construire sur ce terrain, on a commencé par faire creuser et sur plusieurs mètres de profondeur, je me souviens plus exactement combien, je crois qu'au moins 3 mètres, donc creuser en profondeur pour enlever toute cette terre et tout ce qui était instable jusqu'à arriver à un terrain qui était stable. Et à partir de là, on a renfloué avec une autre matière pour pouvoir construire au-dessus. Et ici, cet homme sage, cet homme prudent, a construit sa maison. Et on peut voir ici qu'il y a un parallèle avec la construction de notre vie de foi, notre vie personnelle, notre vie spirituelle, et aussi, pourquoi pas, la construction d'une œuvre de Dieu et la construction de notre ministère, quand on est appelé au ministère, etc. On est appelé à bâtir, mais remarquez que le fondement, c'est ce qu'il y a de plus important ici. Et cette expression particulièrement, que je souligne, creuser, sur laquelle il insiste, se met vraiment en parallèle et en opposition à l'autre personne qui s'était contentée de construire, selon Luc, directement sur la terre, selon Matthieu, sur le sable. C'est-à-dire qu'il s'était contenté de rester juste en surface. Il s'est juste resté une approche relativement superficielle. Et peut-être même qu'on pourrait dire qu'il était pressé de construire. Donc il s'est dit, ok, il y a un terrain qui est là, on a du matos, on construit, mais sans penser à ce qui pourrait arriver plus loin, sans penser dans le long terme. Pendant que celui qui était sage va construire, il va commencer d'abord par creuser. Et ce fait de creuser, on peut y voir différentes choses. Quand il a commencé à creuser, il a dû enlever la terre, il a dû enlever de ce sable, de cette matière instable, avant d'arriver jusqu'à un point où la terre allait être stable, où elle allait se trouver sur le roc. Et de la même façon, quand on commence à marcher avec Dieu, ou même au fil de notre marche avec Dieu, pour certains qui auraient des années de marche avec le Seigneur, lorsqu'on bâtit, lorsqu'on construit et qu'on avance avec Dieu, avant de juste vouloir construire quelque chose et puis d'aller vite se mettre en place, au risque après de subir une ruine, une grande ruine, eh bien, nous avons besoin de creuser. Creuser et d'enlever. De la même façon qu'il a enlevé cette terre, de la même façon que avant de construire ce centre commercial, on a dû enlever toute cette terre boueuse et marécageuse, eh bien, il y a des choses qu'on va avoir besoin d'enlever dans notre vie. Et cette image aussi de la terre, on peut rapporter ça aux choses terrestres. Il y a des choses terrestres, il y a des choses du monde, et il y a des choses de la chair qu'on va avoir besoin d'enlever, et qu'on va avoir besoin de dépasser jusqu'à arriver en profondeur sur un terrain stable, où on va pouvoir commencer à construire. Ensuite, on arrive sur le roc, ce terrain stable qui, évidemment, est une image de Jésus, sur qui nous devons bâtir notre vie. Et vous savez, Jésus lui-même, nous a dit dans Matthieu 16, que Jésus lui-même bâtit son église et qu'il l'a bâtie sur le roc. Et ce roc, on peut regarder, ce roc sur lequel Jésus bâtit son église, Matthieu 16, comme ça je vais voir si je vous raconte pas d'histoire. Matthieu 16, cet épisode où Jésus demandera à ses disciples, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? Que dit-on à mon sujet? Et chacun répondra, voilà ce qu'il est dit, certains ont telle approche, telle autre. Et Jésus leur dira ensuite, et vous, qui dites-vous que je suis? Et Matthieu 16, voilà au verset 16, Simon-Pierre, donc l'un des disciples, lui répond, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus, verset 17, on est dans Matthieu 16, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis, verset 18, que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Mais ce que je voudrais juste vous montrer ici, là aussi il y a de quoi développer, de quoi être enseigné, mais on voit ici que Jésus bâtit son église sur le roc. Et en fait, ce qu'il désigne comme le roc, c'est cette révélation que vient d'avoir Pierre, que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc Jésus lui-même, qui est notre modèle par excellence, bâtit son église sur le roc, sur un terrain solide, celui de la révélation de qui est Christ. Il est le Fils du Dieu vivant. Et de la même façon, quand nous voulons construire notre vie, quand nous voulons construire des étapes de notre existence, si on veut construire son mariage, si on veut construire un business, si on veut construire un ministère, si on veut construire quoi qu'on puisse être amené à construire, eh bien on a besoin de construire sur le roc. Ce roc, disait, c'est une image de Jésus, mais ce roc, plus précisément, c'est de la révélation du Fils de Dieu. C'est la révélation de ce que Jésus veut, c'est la révélation de la volonté du Père. Parce que dans ces deux passages que nous avons eus comme référence tout à l'heure, Luc 6, Matthieu 7, Jésus disait, mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? C'est pas pour autant que vous allez voir mon royaume, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui entrera dans mon royaume. Celui qui est bien positionné, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Il dit, mais pourquoi vous m'appelez Seigneur alors que vous faites pas ce que je vous dis? Et quelquefois, on peut être tenté, ou peut-être même qu'à certains moments, on a pu commencer à le faire, consciemment ou non, de commencer à bâtir quelque chose juste sur une bonne idée, juste sur nos propres pensées, juste sur la terre, juste de façon superficielle. Et le risque à ce moment-là, eh bien, c'est qu'au moment où il va nous arriver des pépins, au moment où la vie va nous tester, et au moment où Dieu va permettre aussi à des circonstances de venir vers nous pour tester notre solidité, eh bien, à ce moment-là, on aura des problèmes. Mais si on est vigilant à cette parole du Seigneur, on va commencer par creuser, enlever la terre, enlever les choses du monde, enlever les choses qui nous rendent instables, jusqu'à arriver dans ce point où on a une parole de Dieu sur laquelle s'appuyer, et on construit sur Jésus lui-même, qui est notre fondement. Et la construction va être en rapport avec trois petits éléments qu'on a ici dans Luc 6. Et je vous invite à le relire juste ensemble, au verset 47. « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Et on a ici de nouveau trois fondements qui sont importants, indispensables pour notre vie, pour les initiatives que nous prenons et pour la manière dont on veut construire, si on veut construire quelque chose de solide. On peut remarquer aussi que la différence entre ces deux hommes, eh bien, c'est que le premier, on vient de le lire, vient à moi, c'est-à-dire vient à Jésus, entend ses paroles, les pratique. Le deuxième, verset 49, il est dit directement, celui qui entend et ne pratique pas est comme un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. La question se pose, on peut peut-être pas l'affirmer, mais on peut se poser la question, est-ce que le deuxième est vraiment venu à Jésus? Verset 47, il nous dit, celui qui vient à moi entend mes paroles et les pratique. Verset 49, il dit juste, celui qui entend et ne pratique pas. Alors la question se pose, est-ce que celui-là est venu aussi à Jésus, ou bien est-ce que celui-là a juste essayé, comme on peut parfois retrouver des personnes qui sont un peu comme ça, ils viennent, ils écoutent, ils entendent des choses, ils essayent d'attraper des paroles de Dieu, mais ils ne les pratiquent pas, et ils n'ont pas cette relation à Jésus. Donc avant de construire, eh bien, ils vont juste attraper des paroles, ils ont entendu quelque chose, ça leur a paru bien, ou voire même ça les a interpellés, et puis ils veulent construire, mais ils sont pas venus à Jésus. Et ils n'ont pas cette relation personnelle, cette relation directe avec le roc sur lequel ils vont pouvoir bâtir quelque chose de solide. Donc la première chose, c'est de venir à lui. Venir à lui, évidemment, ça passe par le salut, hein, ça passe par le fait, à un moment donné, de reconnaître que nous, en tant qu'hommes, on a une nature qui est déchue, qui nous a séparés de Dieu et qui fait que sans lui, on peut rien faire. On peut prendre plein d'initiatives, on peut essayer de devenir meilleur, on peut faire des stages de développement personnel, on peut faire plein de formations, on peut suivre des thérapies, on peut faire des tas de choses. Mais tôt ou tard, il faudra reconnaître que quoi que je fasse, sans Jésus dans ma vie, ma nature fondamentale de toute façon est mauvaise et me destine de toute façon à échouer. Et même si j'ai l'impression de réussir, même correctement sur cette terre, tôt ou tard, ça va être la grande désillusion et au pire, on connaît la destinée éternelle qui malheureusement sera l'enfer et la destruction. Et même si je suis pas là pour brandir des choses pour essayer de faire peur aux gens et leur dire attention, il y a l'enfer, tu vas tu vas les griller sur le barbecue géant, mais ça c'est une réalité. Et donc à un moment, si on n'a pas Jésus dans sa vie, si on commence pas à venir vers lui, ben tout ce qu'on fait finalement, ça n'amènera nulle part. Donc la première étape, évidemment, c'est le salut. C'est à un moment donné reconnaître, ben moi par moi-même, ma vie n'est pas satisfaisante, je peux pas accomplir grand chose qui ait du sens dans cette vie et éternellement, et donc se repentir et accepter la solution de Dieu qui est Jésus-Christ, qui a pris notre place, qui a pris nos péchés, notre malédiction, qui est mort à la croix, puis ressuscité, qui nous invite à saisir par la foi ce salut. Donc ça, c'est la première étape, c'est la première chose à faire, s'approcher de lui, venir à lui, à travers le salut. Mais une fois que nous sommes sauvés aussi, c'est pas juste parce qu'on est sauvé qu'on dit c'est bon, je suis en Jésus. On a besoin aussi de venir régulièrement à Jésus. Venir à lui par la prière. Venir à lui par notre adoration, par nos louanges. Passer du temps dans la présence de Dieu. Je répète encore cette petite expression qui est ressortie ici de ce passage. Creuser, creuser. Pas juste dire je fais ma petite prière du matin, je bénis mon repas à midi si j'oublie pas, et puis je fais ma petite prière du soir avant d'aller m'endormir. Mais creuser. Pas juste se dire je vais chanter une petite demi-heure ou trois quarts d'heure ou une heure ou parfois deux heures selon les endroits pendant un temps de culte ou de célébration et puis c'est ma seule expérience d'adoration. Creusez. Et peut-être même si vous priez et que vous ne ressentez pas encore grand-chose sur le moment, creusez, creusez, jusqu'à ce que vous soyez au contact du roc. Continuez de creuser, de percer, jusqu'à ce que vous soyez au contact de ce roc de Jésus, jusqu'à ce que vous receviez la révélation, jusqu'à ce que vous receviez une parole de Dieu sur laquelle vous allez pouvoir construire quelque chose de stable, quelque chose de durable et contre lequel ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune autre créature, Romains 8, 37, ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu et de la réalisation de son plan parce que vous avez construit sur une parole de Dieu, parce que vous avez construit sur Jésus, parce que vous êtes allé creuser. Et je crois que l'un des problèmes et l'une, je dirais, presque de maladie que nous avons, et je dis nous parce que par moments ça m'est arrivé et je veille à ce que ça ne m'arrive plus, mais l'une des grandes maladies au sein de ceux qui se disent croyants ou enfants de Dieu, c'est qu'on est tous capables de dire Seigneur, 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 mais combien font la volonté du Père? Mais combien cherchent la volonté du Père? Combien creusent? Il est dit ici que celui qui a construit solidement a creusé, creusé. J'ai parlé, en creusant, on enlève certaines choses, cette terre, ce sable qui ne sont pas solides, mais on creuse aussi, on va en profondeur, dans notre relation avec Dieu. On reste pas juste en surface, on approfondit. Vous savez, parfois on parle de percer, et tout ça, c'est des principes qui sont vrais. Ce que je veux dire, c'est pas que Dieu soit difficile à trouver. Mais Dieu nous demande de nous engager. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et Dieu nous promet que si nous nous approchons de lui, il s'approchera de nous. Mais il attend que nous nous engagions. Il attend que nous le cherchions ardemment. Il attend que nous venions passer du temps avec lui et dans sa présence. Pas juste comme ça, un petit peu vite fait en passant, mais aller en profondeur, aller dans l'intimité, creuser. Il nous est parlé, deuxième élément, d'entendre sa parole. Donc première chose, venir à lui. Ensuite, entendre sa parole. Entendre sa parole, comment on fait? Ben, vous êtes en train de le faire, plus ou moins, et moi aussi, parce que même quand je parle, je m'entends, à travers des enseignements, des prédications, des cassettes, des CD, Internet, tout ce que vous voulez, mais aussi à travers votre lecture personnelle de la parole de Dieu. D'entendre, d'écouter la parole de Dieu. À travers votre lecture personnelle de la Bible, avec la lumière de l'Esprit. Et là encore, je vais rajouter, creuser, creuser. Lisez pas juste comme ça, allez, j'ai lu mes trois chapitres du jour, c'est super, j'ai fait mon petit devoir. Lisez comme ça, oui, d'accord, lisez, mais creusez, creusez. Vous contentez pas juste de lire, de passer dessus, et puis comme on aurait lu un journal, et puis cinq minutes après, ou une heure après, ou le lendemain, on sait même plus ce qu'on a lu, creusez. Vous savez, la parole de Dieu nous montre qu'il y a des promesses qui s'attachent au fait de passer du temps dans la parole de Dieu, ce qu'on appelle la méditation. Psaume 1, par exemple, nous dit « Heureux celui qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu ». L'expression « loi de Dieu » désigne pour nous toute cette parole de Dieu maintenant que nous avons et qui la médite jour et nuit. Il est dit qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Waouh ! Sans cesse irrigué, qui porte du fruit en sa saison. et il est dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de réussir? C'est quand même mieux, n'est-ce pas, quand on entreprend quelque chose de réussir. Et Dieu veut qu'on réussisse, parce que sinon il ne nous dirait pas que si on fait ce qu'il dit, on réussira. Sinon il dira, ben, faites ce que je dis et puis on verra ce qui va se passer. Mais si nous voulons réussir, si nous voulons activer les promesses de Dieu dans notre vie, nous avons aussi besoin d'appliquer ses paroles et d'entrer dans sa volonté et d'aller en profondeur dans les choses. Vous savez ce qui différencie les gens qui accomplissent des choses de ceux qui n'en accomplissent pas dans la vie? Ce qui différencie les gens qui ont l'air d'aller loin, qui ont l'air peut-être d'être bénis plus que d'autres, qui ont l'impression de ne pas l'être, ce n'est pas que Dieu fasse des différences, parce qu'il ne fait pas de favoritisme ni d'exception de personne, mais c'est simplement que certains prennent le temps, que certains engagent leur énergie à creuser pendant que d'autres ne le font pas. Et Dieu qui est bon, qui est amour et qui veut faire du bien à tout le monde est aussi un Dieu juste. Et il peut faire pleinement son œuvre dans la vie des personnes à condition que ces personnes aussi puissent pleinement s'engager et permettre à Dieu d'agir dans leur vie en s'alignant sur l'enseignement de Christ et sur ce que Dieu attend de leur part. Vous savez, Dieu promet de nous bénir, Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins, Dieu promet que nous ne manquerions jamais de rien, qu'il serait toujours avec nous. Et parmi tous ces passages de promesses de Dieu, on a ce très célèbre psaume 23 qu'on m'avait forcé quand j'étais jeune à apprendre par cœur. Et aujourd'hui, c'est un plaisir de le connaître, ce passage par cœur. Mais parfois, on le connaît tellement par cœur. On dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verts pâturages, etc. » Mais à un moment, est-ce qu'on le vit? Et est-ce qu'on se rend bien compte de ce qu'on dit? Parce que le tout début de ce passage, c'est « L'Éternel est mon berger ». S'il est mon berger, ça veut dire que je le suis. Ça veut dire que j'écoute sa voix et que je suis sa direction. C'est pas moi qui suis devant à essayer de faire ce que je veux et puis Dieu, il faut que tu me bénisses parce que tu as dit que tu m'emmènerais dans les verts pâturages. Oui, mais les verts pâturages, c'est lui qui va t'y emmener. C'est pas toi qui va aller vers un endroit qui te semble être le verts pâturage, qui n'est peut-être pas le verts pâturage que Dieu a pour toi. C'est Dieu s'engage à nous bénir, Dieu s'engage à pourvoir, Dieu s'engage à faire tout ce qu'il faut et même beaucoup plus que ce que nous pourrions espérer ou penser, mais à condition que nous soyons dans sa volonté. Et l'une des choses qui, à un moment, a frappé mon esprit, parce que je vous cache pas qu'il m'est arrivé aussi parfois d'être un petit peu à côté de la plaque, mais ma prière et mon désir, c'est vraiment d'être le plus possible en plein dans le cœur de la cible, en plein dans le mille de ce que Dieu veut pour moi. Et il y a des moments où on fait des choses, où on est quelque part, et puis on dit, mais Seigneur, je comprends pas, pourquoi ça bouge pas, pourquoi il me manque ci, pourquoi il se passe pas telle chose? Et c'est vrai que des fois, c'est simplement qu'on doit mettre notre foi en action, et puis qu'il y a aussi le temps de Dieu. Mais d'autres fois, c'est comme si le Seigneur me répondait, mais qui t'a demandé de faire ça? Qui t'a envoyé là? Vous savez, des fois, quand le Seigneur vous dit ça, vous êtes là, vous dites, je pensais que ce serait pas mal. C'était pour toi, Seigneur. Et le Seigneur ne demande pas ce qu'on pense faire pour lui ou qu'on fasse plein de choses et puis il nous bénit. Dieu nous bénit quand on est là où il nous veut. Dieu nous bénit quand on fait la chose qu'il veut que nous fassions. Et pour quelqu'un qui serait pas tout à fait sûr de la volonté de Dieu pour lui, ben la première chose à faire, c'est simplement de faire ce que Jésus nous demande de faire. Et ici, il nous invite à creuser. Donc, je reviens à sa parole. Méditer sa parole, ce qui nous amènera à la réussite. Josué 1:8, la même exhortation que ce livre, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc oui, Dieu veut qu'on réussisse, qu'on ait du succès, mais il nous demande aussi de creuser, de faire notre part, de prendre cette parole, de la méditer, de se l'approprier, de la faire rentrer dans nos cœurs. Et alors, il peut manifester tout ce qu'il souhaite manifester. Donc, venir à lui, entendre sa parole, et puis cette troisième caractéristique du verset 47, et qu'il la met en pratique. Parce que c'est bien d'entendre la parole, vous m'entendez prêcher, vous écoutez peut-être des choses de votre côté, vous lisez peut-être un peu la Bible comme ça, peut-être même que vous méditez la parole, mais vous savez, même quand nous la méditons, que nous comprenons ce qu'elle nous dit, il y a encore une étape supérieure qui est nécessaire, c'est de la mettre en pratique. La parole de Dieu est faite pour être pratiquée. Et ici, c'est exactement ce que Jésus reproche au verset 46 en disant « Mais pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous dis ?» Et j'ai pas envie d'être de ceux qui ne font pas ce qu'il dit, vous savez. Je veux être de ceux qui font la joie de leur Père. Et il y a plusieurs paraboles qui montrent combien Dieu attend de nous que nous puissions simplement faire fructifier ce qu'il nous a donné, et que nous puissions simplement répondre à ses commandements et qu'alors il pourrait nous confier des choses et agir dans nos vies. Donc il nous dit bien là, pourquoi ne faites-vous pas ce que je vous dis. Et Matthieu était encore plus développé davantage en disant, mais Seigneur, on a prophétisé de ta part. Seigneur, on a chassé des démons. Seigneur, on a guéri des malades. On pourrait dire, Seigneur, on a fait des campagnes d'évangélisation. Seigneur, j'ai fait des chèques à la mission. Seigneur, j'ai annoncé l'évangile partout autour de moi. Seigneur, j'ai donné mon argent. Seigneur, j'ai passé du temps en prière. J'ai fait des nuits de prière. J'ai fait des semaines de jeûne. J'ai été dans tous les séminaires, dans toutes les conférences. J'ai donné ma voiture. J'ai donné des habits. J'ai fait. On peut tous avoir une liste très longue comme ça. Mais ce que le Seigneur nous demande, c'est pas de faire des tas de choses. Ce qu'il nous demande, c'est de faire ce qu'il nous dit. De faire sa volonté. Pas juste ce que nous, on pense. Pas juste ce qu'on pense être bien. Pas juste ce que les autres, même parfois, nous disent qu'il serait bien. Mais ce que Dieu te dit à toi. Ce qu'il nous dit de faire. Faites-vous ce qu'il vous dit. Vous savez, parfois, on est là et on est friand de demander à Dieu autre chose. Seigneur, donne-moi encore une parole. Seigneur, dis-moi encore quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais est-ce que j'aimerais laisser à certains, peut-être que ça vous parlera, c'est qu'est-ce que vous avez fait de ce que Dieu vous a dit jusqu'à maintenant? Avant de demander à Dieu autre chose, qu'est-ce qu'on a fait de ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant? Jésus disait par ailleurs à celui qui est fidèle dans les petites choses, il lui confiera de plus grandes. Parfois on voudrait des grandes révélations, des grandes directions, des grandes choses à faire, mais qu'est-ce que nous avons fait de ce qu'il nous a dit jusqu'à maintenant? Mettre en pratique sa parole. Je vous invite à regarder dans l'épître de Jacques. Jacques, chapitre 1er, où il nous exhorte par rapport à la mise en pratique de la parole. Ce sont des choses vraiment fondamentales et peut-être très simples, mais ô combien nécessaire. Et avant de vouloir aller dans des choses qui peut-être nous paraîtraient un petit peu plus spirituelles, un petit peu plus élevées, d'un niveau un petit peu plus avancé, mais qu'est-ce qu'on fait de la base? Est-ce qu'on a posé la bonne base dans notre vie? Et même par rapport à cette œuvre qui est l'occasion, pour nous en tant qu'œuvre, mais pour nous aussi en tant que personne, ça fait, merci Seigneur, de nombreuses années que je marche avec lui, et c'est l'occasion de me redire mais où j'en suis par rapport aux bases. Avant de chercher à faire d'autres choses, où j'en suis par rapport aux bases. Et est-ce que je veux vous inviter à faire, à travers ce message aussi, pourquoi pas dans votre propre vie, c'est de dire, je vais faire une petite vérification au niveau de mes fondements. On va vérifier où j'en suis par rapport à ces choses-là, pour que Dieu puisse ajouter des choses. Vous savez, avant de vouloir construire plus haut, ou avant de vouloir élargir un espace, on a besoin de s'assurer que le fondement soit en mesure de supporter cet élargissement, cette charge supérieure. Donc Jacques, chapitre 1er, au verset 21. Jacques 1er 21. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui peut sauver vos âmes. Oui, il est pas mal ce verset parce qu'il illustre aussi. Vous voyez, avant de pouvoir arriver vraiment au roc, pour construire, il faut rejeter certaines choses. Les souillures, les débordements de méchanceté. Et puis recevoir avec douceur la parole qui est plantée en nous et qui peut nous sauver nos âmes. Et verset 22, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Et ces faux raisonnements, ça peut être de dire que ça, de toute façon, je connais. Ça y est, il est bien gentil avec son histoire des deux maisons. Je l'ai entendu une bonne vingtaine de fois dans ma vie et ça va, je sais, le premier, il a pas écouté. Eh ben, tant pis, la maison s'est cassée la figure. Le deuxième, il a fait ce que Jésus lui avait dit, il a bâti sur Jésus, il a bien construit sa vie. C'est super, alléluia, gloire à Dieu. Bon, j'ai autre chose à faire de la demi-heure qui reste. J'espère que ce soit pas le cas. Mais, vous savez, parfois on entend des choses, ou même certains versets, on lit la Bible, on dit, tiens, ce chapitre je le connais, donc je vais le lire en accéléré. Mais, soyons toujours réceptifs. Ne nous bornons pas en disant, ça je connais, moi j'ai mon idée là-dessus, et mettons en pratique la parole. Car, verset 23, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là, tiens, encore une fois, sera heureux dans son activité. Dieu veut-il qu'on soit heureux dans notre activité? Oui, On a au moins trois témoins là, on a déjà cité au moins trois écritures qui disaient ça. Mais ce que je voudrais aussi souligner dans ce verset, il est dit « Celui qui aura plongé ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté ». Donc n'entendez pas ce message où je vous dis « faut creuser, faut chercher être sur le roc, faut pratiquer la parole », comme si j'étais en train de vous mettre un joug dessus en disant « ça y est, il est en train encore de nous donner des devoirs et de nous alourdir », parce qu'en fait, cette loi que Jésus nous donne, ces instructions que Dieu nous donne à travers sa parole, nous amènent à la liberté. À la liberté. La loi parfaite, la loi de liberté. Et donc, si nous persévérons, n'étant pas des auditeurs oublieux, mais se mettant à l'œuvre, on sera heureux dans notre activité. Donc, nous sommes appelés à agir selon ce que Dieu nous dit, dans sa parole, ce qu'il nous dit dans nos cœurs. Rappelez-vous, Romains 8, 14 nous dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et de la même façon, il témoigne de beaucoup d'autres choses. Mais mettons en pratique la parole de Dieu. Et alors, quand la tempête va frapper, je reviens à notre histoire des deux maisons et de ces deux constructeurs, vous savez, la tempête, elle a tapé chez les deux. Hein. Il n'y en a pas un qui a été épargné, même s'il avait bien construit, mal construit. Il y en a un qui a écouté Jésus, l'autre qui n'a pas écouté Jésus. La tempête, elle a frappé. Et excusez-moi de vous le dire, mais je suis obligé de vous dire la vérité. Même si vous marchez fidèlement avec Dieu, même si vous faites exactement la bonne chose, et à un moment, la tempête va frapper. Mais quand la tempête frappe, les vrais fondements sont révélés. Quand la tempête frappe, on se rend compte où est-ce que j'en suis. On se rend compte où en sommes-nous. Quand la tempête a frappé, on s'est rendu compte qu'il y avait une différence et qu'il y avait un problème chez un de ces deux messieurs qui avaient construit. Au départ, peut-être qu'ils avaient deux jolies maisons, peut-être presque pareilles. Vous savez, surtout à l'époque, on construisait les maisons un peu sur le même modèle, hein, en Israël notamment. Et voilà, il y avait un modèle de maison classique, on construisait comme ça, et puis ça y était, peut-être qu'ils ont construit pareil, ils avaient peut-être les mêmes matériaux, ils ont peut-être utilisé les mêmes choses pour faire leur maison, mais la différence ne s'est révélée qu'au moment de la tempête. Et au moment de la tempête, au moment où les choses ne vont pas comme on attend ou comme on voudrait, au moment où ça secoue et où tout a l'air de partir de travers, eh bien dans ces moments-là aussi, nos fondements vont être révélés. Hein, et on va voir si on est solide, on est stable, ou bien si on tient pas encore en route. Donc de toute façon, la tempête frappera, mais la bonne nouvelle, c'est que si nous bâtissons sur Jésus et que nous tenons ferme dans ses bases, dans ses fondements, eh bien nous savons que quoi qu'il arrive, envers et contre tout, nous pouvons tenir, nous pouvons rester stables, nous pouvons rester droits et continuer notre chemin avec le Seigneur. Mais pour cela, eh bien nous ne pouvons pas rester superficiels. On a besoin de creuser pour bâtir sur le roc. Donc je reprends un petit peu. Première étape, quand on creuse, on va enlever certaines choses. On lève ce sable, cette terre, tout ce qui nous écarte et qui peut nous éloigner du roc, qui est au fond, quelque part, où on va devoir chercher ce roc, cette révélation, cette relation intime, profonde avec Jésus, où on va pouvoir construire solidement. C'est comme ça, cette relation vraiment personnelle avec lui. Dépasser juste des prières formelles, dépasser juste des petites habitudes religieuses où on pense qu'avec ça, on communie avec Dieu, et chercher la vraie communion avec Dieu. Et vous savez, chaque personne a sa sensibilité ou son caractère qui lui est propre, mais moi, parfois, rechercher la vraie communion avec Dieu, ça veut dire d'être étalé sur le tapis et parfois même n'avoir rien à dire, mais être juste dans cette aspiration et presque un point de désespérer après la présence de Dieu. On est là, on soupire après la présence de Dieu. Vous savez, Dieu ne nous demande pas de forcément toujours parler. D'ailleurs, Jésus, à un moment, disait, c'est quand vous priez, n'accumulez pas plein de paroles. Ce qu'il regarde, c'est notre cœur. Est-ce qu'on a soif et faim de Dieu? Est-ce que je veux vraiment aller en profondeur avec lui? Et mon désir pour ma vie, pour votre vie et pour cette œuvre, c'est qu'on puisse vraiment aller en profondeur. Quelque chose d'authentique, de vrai. Qu'on se contente pas de quelque chose de superficiel où on se dit, ça y est, on a des réunions, on chante, on prie, on entend un message et puis, ça y est, on est bon pour la semaine. Même dans nos relations, ça peut se dire bonjour, comment tu vas, ça va, merci, au revoir, et puis ça y est pour la semaine, mais qu'on puisse vraiment aller en profondeur dans les choses. Et vous savez, quoi qu'on puisse en penser, ce monde et la société dans laquelle on vit, les gens sont en mal d'authenticité. Les gens ont soif et faim de quelque chose de vrai, de profond, de la teneur. Il y a plein de choses, et on le voit même dans le matériel. Les téléphones portables, plein de choses, c'est devenu du consommable. Le téléphone, s'il vous tient 2 ans, c'est presque une performance. L'ordinateur, au bout de quelques mois, il est déjà dépassé. une bonne partie de ce que nous avons aujourd'hui, c'est du consommable. C'est des choses qui sont faites juste pour, voilà, ça tient un moment et puis on passe à autre chose. Et donc on est dans une dynamique assez superficielle qui a fait que même au niveau des relations humaines, on est devenu superficiel. On passe d'ami en ami, de petit copain en petit copain, de connaissance en connaissance, même d'emploi en emploi, parfois pour de bonnes raisons, parfois moins. Mais tout ça, c'est devenu, on est devenu très superficiel. Et ce qui a créé de grands maux et de profonds sentiments de solitude, alors qu'on a aujourd'hui tous les moyens d'être en relation avec plein de gens autour de nous. Il y a des gens, on n'a jamais eu autant de gens qui se sont sentis seuls, qui ont été dépressifs. Et vous savez qu'en France, on est dans les plus grands consommateurs d'antidépresseurs et de cachets. C'est ça parce que les gens, eh ben, sont en mal de quelque chose de vrai. Et pourtant, nous avons la réponse. La réponse, c'est pas moi, Fabien. La réponse, c'est pas le centre Zoé. La réponse, c'est Jésus. Mais nous sommes là comme des connecteurs pour montrer aux gens, mais il y a une réponse. Tu peux vivre des choses vraies, authentiques, profondes. Une vraie relation avec Dieu. Pas une espèce de religion où tu fais ton petit devoir, tu écris ton chèque et puis ça y est, c'est bon. Mais quelque chose de profond, une vraie intimité avec Dieu. Entendre sa parole, pratiquer sa parole, entrer dans ses œuvres et construire solidement. De telle sorte que lorsque l'épreuve frappe, quand la tempête se lève, eh bien, on va pas retomber et puis, être complètement désemparé, mais on va pouvoir tenir ferme. Tenir ferme sur ce que je crois, parce que je ne tiens pas seulement sur des principes ou sur une confession de foi, mais je tiens sur celui qui en est la source. Mon rocher, c'est Jésus. Et quoi qu'il arrive, je suis positionné. Je suis positionné en lui. Ferme, inébranlable. Ma maison est bien bâtie. Et c'est ce que je désire pour vous, pour moi. Et ça, on peut le faire simplement, avec des choses simples, mais qui demandent notre engagement, notre régularité, notre disposition à nous tenir devant le Seigneur, à écouter sa parole, à pratiquer sa parole et à marcher avec lui. Et alors, il promet que nous réussirions. Lui, il a promis d'être avec nous tout le temps. Mais nous, est-ce qu'on est avec lui tout le temps? Et je terminerai juste en disant, vous savez, c'est pas tellement, il fait partie de mes slogans, vous verrez, j'ai quelques slogans, mais c'est pas tellement ce que vous savez qui fait la différence, c'est ce que vous pratiquez. Et en finissant ce message, je voudrais vraiment vous dire, ben, peut-être vous savez plein de choses, merci Seigneur pour ça, mais au-delà de juste savoir quelque chose, qu'est-ce que vous pratiquez? Peut-être que certains sont capables de me faire un exposé, peut-être même mieux que moi, et ça ne me surprendrait pas, parce que certains pourraient peut-être parfois même mieux que moi exposer les bonnes disciplines chrétiennes. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, comment il faut faire les choses, comment ça doit être fait et tout ça, peut-être. Mais ça m'intéresse pas tellement d'être seulement sur un niveau de choses qu'on connaît intellectuellement ou de façon, avec une approche très technique. Mais ce que Jésus veut, c'est qu'on le connaisse lui, pas juste comme un principe, comme une théorie, mais qu'on le connaisse, c'est-à-dire qu'on fasse un avec lui, qu'on vive cette profonde communion, qu'on le connaisse par expérience. Connaître Jésus, c'est expérimenter Jésus. Connaître la parole de Dieu, c'est expérimenter la parole de Dieu. C'est bien de savoir réciter des versets, mais dans les versets que vous récitez, est-ce que c'est quelque chose qui change votre vie? Est-ce que vous avez creusé au point que ça fait partie de vous-même? Est-ce que vous les pratiquez? Donc laissons-nous être interpellés par l'Esprit de Dieu et regardons un instant, considérons nous-mêmes où nous en sommes par rapport à ces fondements. Et que l'on soit au début d'une construction, ou alors qu'on ait déjà une vie de foi depuis des années, mais juste faisons un petit contrôle. Vous savez, dans les bâtiments publics, et d'ailleurs dans les grandes constructions, on doit faire des contrôles réguliers pour s'assurer que toutes les installations fonctionnent bien, et que même la solidité du bâtiment n'est pas compromise. Ben, faisons un petit check de notre situation, de nos fondements, de nos bases. Juste reprenons nos bases et regardons. Est-ce que vraiment j'ai continué à creuser? Peut-être que je l'ai fait un moment, mais est-ce que je me suis assuré que je continuais à le faire? Est-ce qu'il n'y a pas de nouveau des choses qui peut-être se sont glissées entre et qui font qu'il y a de nouveau une couche de choses entre le rocher Jésus et sa parole et sa révélation et ce que je suis en train d'essayer de construire? Et permettons à l'Esprit de Dieu, et vous savez, si on est volontaire, il va le faire, de nous éclairer. Peut-être de mettre le doigt sur quelque chose pour que nous puissions nous remettre à bien bâtir sur les bons fondements, garder les bases et que Dieu puisse se manifester, que Christ puisse être révélé dans notre vie et pour les gens qui sont autour de nous, dans sa gloire, parce que nous avons permis qu'il le fasse, parce que nous avons créé un contexte favorable pour ça. Est-ce que vous êtes avec moi là-dessus? Amen.
Cet enregistrement vous est offert sans frais par le programme Provision. Il est interdit de le vendre ou de le modifier.
D'autres ressources vous sont offertes sur le www.provisiondevie.com.
www.provisiondevie.com.